Chapitre 9. Ilium et Olympos. Aphrodite a fait de moi un espion, et je sais quel châtiment les mortels réservent aux espions. Je ne peux qu'imaginer celui que m'infligeront les dieux. D'un autre côté, je préfère n'en rien faire. Ce matin, le lendemain du jour où je suis devenu l'agent secret de la déesse de l'amour, Athénée quitte Olympos par téléportation quantique et prend l'aspect d'un Troyen, le guerrier Laodoc. Obéissant à l'ordre de Zeus, qui souhaite que le camp d'Ilium soit le premier à rompre la trêve, elle part à la recherche de l'archer Pandare, fils de Lycaon. Armée du casque d'Hadès et du médaillon que m'a donné ma muse, je me técue sur les talons d'Athénée, puis prends l'aspect d'Échépole, un capitaine troyen, et suis la déesse déguisée. Pourquoi ai-je choisi Échépole ? Pourquoi le nom de ce personnage mineur m'est-il familier ? Je me rends compte qu'Échépole n'a plus que quelques heures à vivre. Si Athénée réussit à manipuler Laodoc afin qu'il viole la trêve, ce malheureux Troyen, s'il faut en croire Homère, va mourir d'un coup de lance argienne. Enfin, Monsieur Échépole aura récupéré avant cela son corps et son identité. Dans l'Iliade, la reprise des hostilités a lieu juste après qu'Aphrodite a soustrait Paris au combat singulier l'opposant à Ménélas. Mais ici, dans la réalité de cette guerre de Troie, ce premier non-affrontement s'est déroulé il y a des années. La trêve en vigueur aujourd'hui est bien plus banale. Des représentants du roi Priam, rencontrant certains héros achéens dans le but de parvenir à un accord abscon portant sur les interruptions du combat, eu égard à la nécessité d'organiser festival ou funérailles. Si vous voulez mon avis, l'une des raisons pour lesquelles ce siège traîne depuis bientôt 10 ans tient à la réduction du temps de travail. Les Grecs et les Troyens ont autant de fêtes religieuses que les Hindous du XXIe siècle et autant de jours chômés que les employés des postes américaines. On se demande comment ils réussissent à s'entretuer avec ces festins, ces sacrifices et ces enterrements qui durent une décade. Ce qui me fascine, alors que je viens d'entrer en rébellion contre la volonté des dieux, pour me retrouver encore plus assujetti qu'avant à la dite volonté, c'est la rapidité avec laquelle les événements peuvent diverger du récit qu'en fait Homère. Les disparités que j'ai pu constater par le passé, la séquence du rassemblement des armées par exemple, ou encore le placement dans le temps du duel avorté opposant Paris à Ménélas, sont relativement mineures. Et on peut les expliquer par la licence poétique, l'Iliade étant placée sous le signe d'une certaine unité de temps. Mais que se passera-t-il si les événements suivent vraiment un cours différent? Supposons que, ce matin, je m'approche tout près d'Agamemnon, pour prendre un exemple, et plante ma lance, c'est la lance du malheureux Échépole, mais elle est en parfait état de marche, dans le cœur du roi. Les dieux ont bien des pouvoirs, mais pas celui de ramener un mort à la vie. Même si ce mort est un dieu aussi stupide que cela paraisse. Qui es-tu, Hockenberry, pour contrarier le destin et défier la volonté des dieux ? S'enquiert une voix au perché d'arrogant professeur qui a dicté le cours de ma vie antérieure. Je suis moi, Thomas Hockenberry, répond mon égo contemporain, si fragmenté soit-il, et j'en ai plein le cul de ces voyous assoiffés de pouvoir qui se prétendent divins. Prenant à cœur mes nouvelles fonctions d'espion, je m'approche suffisamment pour entendre le dialogue d'Athénée, déguisé en Laodoc, et de ce bouffon de Pandare, excellent archer au demeurant. Athénée Laodoc adopte le registre de la camaraderie de chambrée et, tirant parti de la vanité de ce crétin, lui affirme que Paris le couvrira de cadeaux s'il tue Ménélas, allant jusqu'à le comparer à l'archer glorieux, Apollon, à condition qu'il soit assez doué pour atteindre sa cible. Pandare tombe dans le panneau, le pauvre sot comme l'appelle un traducteur de l'Iliade, et demande à ses camarades de le dissimuler pendant qu'il prépare son arc et choisit la flèche qui convient à ce mauvais coup. Des siècles durant, les scoliastes, les spécialistes de l'Iliade, se sont querellés pour savoir si oui ou non, les Grecs et les Troyens utilisaient des flèches empoisonnées. La grande majorité, moi y compris, estimait que non. Un tel comportement nous semblait incompatible avec le sens de l'honneur affiché par ces braves guerriers. Nous nous sommes bien plantés. Ils n'hésitent pas à utiliser le poison. Un poison aussi létal que rapide. Ce qui explique pourquoi autant de blessures sont mortelles dans l'Iliade. Pandare tire, joli coup, Sous mes yeux, la flèche décrit une parabole sur quelques centaines de mètres, puis fond tout droit sur le frère roux d'Agamemnon. Elle va embrocher Ménélas, qui se tient devant ses guerriers et observe les héros palabrant en terrain neutre. Enfin, elle va l'embrocher à moins que n'intervienne un dieu hellénophile. Et en voici un. Grâce à ma vision surpuissante, je vois Athénée abandonner le corps de Laodoc et se técu près de Ménélas. La déesse joue ici un double jeu. Après avoir incité les Troyens à violer la trêve, elle se précipite pour sauver Ménélas, l'un de ses favoris. Elle est en mode furtif. Invisible aux yeux de tous, sauf à ceux de l'humble scoliaste que je suis, et elle éloigne la flèche tout comme une mère éloigne une mouche de son fils endormi. Je parierais que j'emprunte cette image à l'Iliade, mais ça fait si longtemps que je ne l'ai pas lue, dans le texte ou en traduction, que je ne saurais en jurer. Malheureusement, le trait atteint quand même sa cible. Poussant un cri de douleur, Ménélas s'effondre, la flèche plantée dans son ventre, juste au-dessus de l'aine. Athénée a-t-elle échoué? S'ensuit une vaste confusion. Les héros de Priam vont s'abriter derrière les rangs troyens et les négociateurs achéens derrière les boucliers grecs. Agamemnon, qui profitait de la trêve pour procéder à une revue des troupes, peut-être dans le but de réaffirmer son autorité à l'issue de la mutinerie d'Achille, accourt et découvre son frère en convulsion, entouré par un groupe compact de capitaines et de lieutenants. Je brandis vers eux un petit bâton. Il ressemble au genre de matraque dont pourrait être équipé un officier troyen, mais il n'appartient pas au capitaine Équipole. Il fait partie de l'équipement de base du scoliaste. Il s'agit en fait d'un taser doublé d'un microphone directionnel, capable de capter une conversation à 3 km de distance et de la retransmettre aux écouteurs que je porte en permanence lorsque j'erre sur la plaine d'Ilium. Agamemnon déclame à son frère mourant un éloge funèbre de première. Je le vois tenir Ménélas à la façon d'une Pietà et l'entend décrire la terrible vengeance qu'il infligera aux Troyens pour les châtier du meurtre du noble Ménélas. Après quoi, il bascule dans le registre des lamentations, estimant que les Achéens, au mépris de sa soif de vengeance, renonceront à faire la guerre et repartiront à bord de leur nef noire. Après tout, à quoi bon secourir Hélène si son cocu de mari est mort? Agamemnon joue au prophète en berçant son frère gémissant. « Tes os pourriront dans la terre, ô mon frère, et tu resteras gisant en Troade, ta tâche inachevée !» De quoi vous remonter le moral si vous êtes à l'agonie.
« Pas si vite !»
grogne Ménélas sans desserrer les dents.
« Ne m'enterre pas tout de suite, ô mon frère. Le trait aigu n'est pas entré au bon endroit. Tu vois, il a pénétré ma ceinture en bronze et s'est planté dans ma poignée d'amour plutôt que dans mon ventre ou dans mes couilles.
Ah ?»«
Oui. »
fait Agamemnon. Il examine la blessure en plissant le front. On dirait presque qu'il est déçu. Son éloge se révèle vain et il semble qu'il y ait vraiment travaillé.
« Mais la flèche est empoisonnée !»
hoquette Ménélas comme pour le rassénérer. Sa crinière rousse est souillée de sueur et d'herbe car il a perdu son casque d'or en tombant. Agamemnon se relève vivement, si vivement que Ménélas manque s'effondrer une nouvelle fois, n'étant retenu que de justesse par ses capitaines, et ordonne à son héros Taltibios d'aller guérir Macaon, fils d'Asclépios, médecin personnel d'Agamemnon et guérisseur sans reproche, qui est censé avoir appris son art de Chiron, le centaure. La scène est de celle qu'on peut voir sur les champs de bataille à toutes les époques. Un homme à terre qui hurle, jure et pleure à mesure que la douleur croît et lui fait oublier le choc initial. Ses amis agenouillés autour de lui, impuissants, inutiles, puis le toubib et ses assistants qui accourent, donnent des ordres, arrachent la flèche barbelée de ses chairs déchirées, sucent le poison, appliquent des pansements à la plaie tandis que Ménélas continue de hurler comme un cochon qu'on égorge. Laissant son frère au bon soin de Macaon, Agamemnon va haranguer ses hommes, bien que les Achéens, même privés d'Achille comme ils le sont aujourd'hui, soient déjà d'une humeur massacrante et prêts à en découdre. Moins de 20 minutes après le mauvais coup mal inspiré de Pandare, la trêve est finie et les Grecs attaquent les Troyens sur un front de 3 kilomètres de poussière et de sang. Il est temps pour moi d'évacuer le corps d'Équépole avant que ce pauvre malheureux reçoive un fer de lance dans le crâne. Je ne me rappelle pas grand-chose de ma vie sur Terre. J'ai quasiment tout oublié de mon épouse et de mes enfants, si tant est que j'en ai eu. Je ne garde de mon domicile que le souvenir flou d'un bureau encombré de livres où je lisais et préparais mes cours. Et quant à l'université de l'Indiana où j'enseignais, il ne m'en revient que l'image d'une colline couverte de bâtiments de pierre et de briques, avec une superbe vue à l'horizon est. L'une des bizarreries de la vie de scoliaste est que des souvenirs essentiels mais sans rapport avec la scolie vous reviennent au fil des mois et des années. Ce qui explique sans doute que les dieux ne nous laissent pas vivre bien longtemps. Je figure parmi les plus anciens de la tribu. Je me souviens de certains de mes cours, des visages de mes étudiants, de conférences et de discussions autour d'une table ovale. Je me souviens entre autres d'une jeune femme aux frais minois me demandant « Mais pourquoi la guerre de Troie, elle a duré aussi longtemps ?» J'ai été tenté, je m'en souviens, de lui répondre que son époque était celle du fast-food et de la guerre éclair. McDonald's et la guerre du Golfe, Arby's et la guerre contre le terrorisme. Mais que les anciens Grecs et leurs ennemis n'auraient jamais imaginé précipiter les choses en matière de guerre comme de restauration. Veillant à ne pas saturer les capacités d'attention de mes étudiants, je leur ai expliqué que ces héros accueillaient le combat avec joie. Entre autres termes pour désigner cette activité, ils utilisaient celui de carmé, dont la racine était la même que celle de carreau, c'est-à-dire réjouissance. Je leur ai lu une scène dans laquelle deux guerriers, s'affrontant face à face, étaient décrits comme carmé getosunoi, se réjouissant dans le combat. Je leur ai expliqué le concept grec d'aristeia, un duel ou une lutte en petits groupes où un individu a l'occasion de prouver sa valeur et son importance à leurs yeux, précisant qu'une bataille pouvait s'interrompre afin que les guerriers des deux camps observent une telle aristeia. « Ouais, alors quoi vous voulez dire ?» a bafouillé l'une de mes étudiantes aux frais minois, illustrant par sa diction l'épidémie de déficience mentale qui ravageait la jeunesse américaine de la fin du XXe siècle. « Vous voulez dire que la guerre, elle aurait dû finir avant s'il s'était pas si souvent arrêté pour faire cet aristomachin ?»« Précisément, » ai-je soupiré en jetant un regard en douce vers la pendule murale, impatient d'être libéré. Aujourd'hui, toutefois, après avoir vécu 9 ans d'aristeia en action, je peux affirmer avec certitude que c'est en grande partie à cause de ces duels tant appréciés des Troyens comme des Argiens que ce siège se traîne lamentablement comme il le fait. Et, à l'instar d'un Américain pourtant bien éduqué, ayant séjourné un peu trop longtemps en France, je suis pris d'une violente envie de retrouver le fast-food, ou plutôt la guerre éclair. Un petit tapis de bombe, une petite invasion aéroportée, pif-paf vite fait, et je retourne auprès de ma Pénélope. Mais pas aujourd'hui. Équépol est le premier capitaine troyen à succomber à l'assaut achéen. Peut-être est-il encore un peu sonné, un peu désorienté après que je lui ai emprunté son corps. Mais alors qu'à la tête de ses soldats il affronte un groupe conduit par Antiloque, fils de Nestor et grand ami d'Achille, ce pauvre Équépol lève sa pique avec un temps de retard et Antiloque frappe le premier. La pointe en bronze de sa lance s'insinue sous le casque à cimier d'Équépol et lui transperce le crâne, lui faisant sauter un œil de son orbite et la cervelle de la bouche. Équépol s'écroule comme un mur, pour citer Homère. Se met alors en place une dynamique que j'ai maintes fois observée, mais qui ne laisse pas de me fasciner. Les Grecs et les Troyens combattent avant tout pour des questions d'honneur, certes. Mais le butin a aussi son importance. Ces hommes sont des professionnels de la guerre. Leur salaire, c'est le pillage. Parmi les enjeux les plus précieux, tant sur le plan de l'honneur que sur celui du butin, on trouve la splendide armure ouvragée, bouclier, plastron, jambière, ceinturon, de l'ennemi vaincu. Aux yeux d'un Grec, l'armure de l'ennemi a autant de valeur que son scalp pour un guerrier sioux, et en plus, elle peut rapporter gros. À tout le moins, l'armure d'un capitaine est forgée dans le bronze, et celle des officiers les plus importants est souvent enrichie d'or martelé et de bijoux précieux. On commence donc à se disputer l'armure du pauvre Équépol. Un capitaine achéen du nom d'Éléphénor se précipite, saisit Équépol par les chevilles et entreprend de traîner le cadavre ensanglanté à travers le fracas de lances, d'épées et de boucliers. Au fil des ans, j'ai pu observer Éléphénor dans le camp achéen. Je l'ai vu en action sur le champ de bataille et je dois dire que son nom lui va comme un gant. C'est un type colossal, avec des épaules carrées, des bras puissants et des cuisses épaisses. Pas le plus futé des combattants d'Agamemnon, mais un guerrier courageux, costaud et vaillant. Donc, Éléphénor, fils de Chalcodon, 38 ans en juin dernier, commandant des Abantes et seigneur de Bée, traîne le cadavre d'Échépol derrière les rangs achéens et se met à le dépouiller. Puis voilà qu'Agénor, un guerrier troyen, fils d'Anténor, père d'Échècle, que j'ai croisé tous les deux dans les rues d'Ilium, se glisse entre les Achéens et aperçoit les côtes d'Éléphénor exposées lorsque le géant se penche sous son bouclier afin de déshabiller le cadavre d'Échépol. Agénor bondit et plante sa pique dans le flanc d'Éléphénor, lui fracassant les côtes et lui broyant le cœur. Éléphénor s'effondre en vomissant son sang. D'autres Troyens montent en première ligne, repoussant l'attaque achéenne, tandis qu'Agénor, récupérant sa pique, entreprend de dépouiller Éléphénor de son ceinturon, de ses jambières et de son plastron. D'autres Troyens récupèrent le cadavre presque nu d'Échépol et le remportent dans leur camp. La bataille tourne autour de ces braves terrassés. Ajax l'Achéen, Ajax le Grand, fils de Télamon et roi de Salamine, à ne pas confondre avec Ajax le Petit, commandant des Locriens, se fraye un chemin à coups d'épée, puis néglige celle-ci au profit de sa pique pour frapper un très jeune Troyen du nom de Simoïsios qui est venu protéger la retraite d'Agénor. Il y a 8 jours à peine, bien à l'abri dans les jardins d'Ilium, sous l'aspect du Troyen Sthénélas, j'ai partagé le vin et la compagnie de ce Simoïsios. Âgé de 16 ans, célibataire et encore vierge, il m'a raconté que son père, Anthémion, l'avait baptisé en l'honneur de la rivière Simoïs, qui court près de leur modeste demeure à 1500 mètres des murailles de la cité. Simoïsios avait 6 ans le jour où les nefs noires des Achéens sont apparues à l'horizon. Et jusqu'à date récente, son père interdisait à ce garçon trop sensible de s'engager dans l'armée. Simoïsios m'a confié qu'il redoutait de mourir, ou, plus précisément, de mourir sans avoir jamais caressé le sein d'une femme, sans avoir jamais connu l'amour. Poussant un cri terrible, Ajax le Grand lance sa pique, il fracasse le bouclier de Simoïsios et le frappe en pleine poitrine, au-dessus du sein droit, lui pulvérisant l'épaule et fouillant ses chairs de la pointe de bronze jusqu'à faire saillir la pique dans son dos. Simoïsios vacille sur ses jambes et ouvre de grands yeux étonnés, fixant d'abord Ajax, puis l'arme plantée dans son torse. Ajax lui écrase le visage avec sa sandale et dégage sa pique, laissant le corps du garçon tomber face contre terre dans un nuage de poussière et de sang. Ajax le Grand se frappe la poitrine et encourage ses hommes à le suivre. À moins de 10 mètres de là, un Troyen du nom d'Antiphe tente d'atteindre Ajax le Grand d'un coup de javeline. Il rate sa cible, mais touche au bas-ventre un Achéen nommé Léoukos, alors que celui-ci s'active en compagnie d'Odysseus à dépouiller un autre guerrier Troyen. La pointe de l'arme lui traverse le ventre, ressortant par l'anus, et y reste accroché des lambeaux de côlon et d'intestin rouge et gris. Léoukos s'effondre sur le cadavre du Troyen, mais, avant de mourir, il a le temps de connaître une atroce agonie, tentant d'arracher la javeline de son ventre et réussissant pour sa peine à répandre un peu plus ses tripes. Et pendant qu'il tire d'une main sur la hampe de l'arme, de l'autre, il agrippe le bras sanguinolent de son vieil ami Odysseus. Lorsque Léoukos succombe enfin, lorsque ses yeux se voilent, il garde une main serrée sur le javelot d'Antiphe et l'autre refermée autour du poignet d'Odysseus. Celui-ci se dégage et se retourne vivement, les yeux en feu sous la visière de son casque de bronze, cherchant du regard une cible, n'importe laquelle. Odysseus lance sa javeline et court à sa poursuite. Un groupe d'Achéens s'engouffre derrière lui dans la brèche qu'il vient d'ouvrir parmi les rangs troyens. La javeline d'Odysseus tue Démochoon, un fils bâtard du roi Priam. Je me trouvais à Ilium il y a 9 ans, le jour où Démochoon est arrivé pour défendre la cité de son père. Il était de notoriété publique que le roi lui avait confié ses célèbres écuries d'Abydos, une ville située au nord-est de Troie, sur la rive sud d'Hellesponte, afin de le tenir éloigné de son épouse et de ses fils légitimes. Les chevaux d'Abydos ont la réputation d'être les plus beaux et les plus rapides du monde, et on dit que Démochoon considérait comme un honneur d'être nommé écuyer à un si jeune âge. Et alors que ce jeune Troyen tourne la tête, alerté par le cri de guerre d'Odysseus, la pointe de bronze le frappe à la tempe gauche, ressortant de son crâne par la droite, le jetant à terre et clouant son crâne fracassé à un char renversé. Démocoon n'a pas vu venir le coup qui l'a tué, littéralement. Les Troyens battent en retraite sur toute la ligne, reculant devant la rage d'Odysseus et d'Ajax le Grand réunis, s'efforçant si possible d'emporter leurs nobles morts et sinon les abandonnant sur le champ de bataille. Hector, le plus grand guerrier et l'homme le plus honnête d'Ilium, descend d'un bond de son char et plonge dans la mêlée, usant de la lance et de l'épée pour encourager les Troyens à résister. Mais l'assaut des Achéens est si violent en cet instant qu'Hector lui-même perd pied, exhortant néanmoins ses hommes à un peu de discipline. Bien que battant en retraite, les Troyens ne rendent point les armes. J'ai adopté l'aspect d'un fantassin troyen, et je devance le mouvement afin de me mettre hors de portée de javeline, ne redoutant nullement de passer pour un lâche. Un peu plus tôt, je me suis rendu invisible aux yeux des mortels pour tenter de voir Athénée derrière les lignes achéennes. Elle y a été rejointe par Erée, aussi invisible qu'elle. Mais le combat était trop farouche, l'escalade trop rapide, de sorte que je me suis dirigé vers l'arrière peu après la mort d'Échépol, me fiant à ma vision améliorée et à mon micro-directionnel pour continuer à suivre l'action. Soudain, tout se fige. L'air s'épaissit. Les lances s'immobilisent dans l'air, le sang cesse de couler. Des hommes à l'agonie se voient accorder un sursis dont ils n'auront jamais connaissance. Tout bruit cesse, tout mouvement s'interrompt. Les dieux s'amusent de nouveau avec le temps. Apollon est le premier, je vois son char se matérialiser près d'Hector. Puis c'est Arès, le dieu de la guerre, qui consacre une minute à s'engueuler avec Athénée et Erée avant de s'envoler au-dessus de la mêlée, atterrissant près d'Apollon. Aphrodite se joint à eux, m'accordant un bref coup d'œil, je feins d'être figé sur place comme tous les autres mortels, avant de s'entretenir, tout sourire, avec ses deux alliés pro-troyens, Arès et Apollon. Je l'observe du coin de l'œil, tandis qu'elle désigne divers endroits du champ de bataille, pareil à un Patton au gros sein. Les dieux sont venus en découdre. Apollon lève la main, le vacarme reprend ses droits, le temps reprend son cours dans un tsunami de poussière et de mouvement, et la tuerie reprend de plus belle.